comme il vient d'être dit, nous continuons ce que nous avons commencé. Nous avons eu sur le sujet du parler en langue, autrement dit glossolalie, déjà une première étude au mois dernier, mais nous n'avons pas eu le temps de couvrir l'ensemble du sujet, et donc la deuxième partie, je vais vous la proposer aujourd'hui. J'espère qu'il restera assez de temps pour des échanges dans la dernière partie de notre temps ensemble. Nous sommes bien à l'heure aujourd'hui, donc nous allons en profiter. Et nous allons revenir forcément au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, qui est le chapitre le plus détaillé sur notre sujet. Mais je lis un autre passage à titre d'introduction avant que nous nous engagions dans notre travail. C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 7, que je vais lire juste les versets 9 à 12. Après quoi, je demanderai à notre sœur Farah de nous conduire dans la prière, après que j'aurai fait cette lecture. Donc, Apocalypse 7, 9 à 12. Après avoir vu une grande foule qui est du nombre symbolique de 144 000, 12 au carré, 12 fois 12 par 1000. L'apôtre Jean, le visionnaire, écrit « Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et des branches de palmier à la main, et il criait « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens et les quatre êtres vivants, ils tombèrent la face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu en disant « Amen, la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. » Prions ensemble.
De tout puissant, je te remercie parce que tu nous permets de nous réunir tous ensemble librement pour en apprendre plus sur toi. Je demande vraiment de nous diriger pendant ce moment, d'ouvrir notre intelligence et de nous aider à mieux comprendre ta parole, Seigneur. Je demande aussi d'être avec ceux qui n'ont pas pu venir et de les garder. Sois béni dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen. Dans quelques passages, pas très nombreux, le Nouveau Testament nous parle d'une capacité assez étrange, qu'on appelle couramment glossolalie ou parler en langue. Les deux expressions veulent dire exactement la même chose. C'est quelque chose qui s'est produit le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu a été répandu sur le peuple de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance étant ce jour-là inaugurée. Et à quelques autres reprises, le Nouveau Testament nous parle de se parler en langue. La fois dernière, nous avons cherché à cerner la nature exacte de ce phénomène. Et j'ai conclu, pour ma part en tout cas, et j'espère que vous avez pu bien sûr, dans cette affaire, il s'agissait d'un phénomène miraculeux, du don par l'Esprit Saint de la capacité à quelqu'un qui ne connaît pas une langue de s'exprimer dans cette langue sans comprendre même ce qu'il dit, de s'exprimer dans cette langue en règle générale au moins pour adresser à Dieu des louanges. C'est pour magnifier le nom du Seigneur que la personne qui reçoit le don du parler en langue, ou plus brièvement, le don des langues, dans une langue qu'il ne connaît pas, par exemple le zoulou, le sanskrit, une langue qui a existé sur la terre, ou qui existe encore aujourd'hui. C'est un don surnaturel qui manifeste l'action de l'Esprit de Dieu et qu'il ne faut pas confondre, avant de nous conclure, avec ce que les spécialistes de sciences humaines anthropologue, psychologue, appelle aussi parfois glossolalie, un phénomène qui s'observe à bien des endroits, en particulier dans des groupes religieux. Par exemple, j'ai lu en tout cas que dans le vaudou, c'est un phénomène qui se produit, phénomène qui ressemble à une émission dans une langue étrangère, une suite de sonorités qui font penser qu'il peut s'agir d'une langue étrangère, mais qui ne sont pas en réalité une langue étrangère, qui correspondent à une émission de sonorités successives. C'est un simulacre de langue et non pas une véritable langue. J'ai conclu, contre l'avis de certains, que le don dont il est question dans la Bible, ce n'est pas ce don de glossolalie qui est une production du psychisme humain, mais que c'est un don surnaturel qui implique une émission dans une langue qui existe vraiment, qu'il s'agit de paroles qui ont un sens authentique. Alors un don d'interprétation de ces langues, de traduction, existe aussi, et nous allons voir comment l'apôtre parle de l'articulation entre les deux, donc d'interprétation de ces langues, surnaturelle lui aussi, car les personnes qui interprètent, lorsque c'est le don, ne connaissent pas la langue en cause. Il leur est révélé que celui qui parlait en langue a dit ceci ou cela. Il est arrivé que des personnes qui connaissent la langue où s'exprime le glossolal fassent la traduction, l'interprètent, mais cela n'est pas surnaturel. C'est parce qu'ils ont bien compris ce qui était dit dans la langue qu'ils connaissent eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, vous a-t-il dit, comme il y avait pour la fête des juifs et des prosélytes, sans doute, qui venaient de très grandes nations et qui connaissaient une grande diversité de langues, ils ont reconnu ces langues dans ce que disaient les 120 auxquels l'Esprit donnait de s'exprimer dans des langues diverses. Mais le don d'interprétation est un don surnaturel qui révèle le sens des paroles qui ont été émises. Nous avons aussi mentionné, et je crois qu'il faut que je le rappelle, qu'il semble exister, j'ai au moins un cas, un témoignage tout à fait net et formel, tout à fait fiable, il semble exister aussi un parler en langue surnaturel qui n'est pas dû au Saint-Esprit, mais qui est dû à un esprit malin. Et où ce sont des blasphèmes qui sont proférés dans cette langue que celui qui parle ne connaît pas. Cela semble aussi exister, en tout cas, j'ai un cas dont je vous ai cité la provenance la dernière fois. Voilà ce que nous avons pu cerner du don de parler en langue selon le Nouveau Testament la dernière fois. Et aujourd'hui, je cherche à répondre à deux grandes questions. Pourquoi et comment? Quel est le sens de l'attribution de ce don? Pourquoi le Saint-Esprit accorde-t-il cette capacité? Et comment doit-on pratiquer le parler en langue si on a reçu ce don? Qu'en faire? Quelles sont les conséquences plus pratiques à tirer? C'est sur ces deux grandes questions que je vous propose de nous concentrer ce matin. Nous avons mentionné la dernière fois que le thème du parler en langue a repris beaucoup d'intérêt, a suscité beaucoup de discussions au XXe siècle à cause du pentecôtisme. Le pentecôtisme qui est un mouvement divers, il faut le reconnaître. Mais le pentecôtisme qui est né en gros au début du XXe siècle aux États-Unis a fait dans la plupart de ses branches du parler en langue le signe nécessaire du baptême du Saint-Esprit. Voilà la signification qui est attribuée, et c'est très caractéristique du pentecôtisme, à ce parler en langue. Selon le schéma le plus habituel, alors il y a parfois un peu de trouble dans la terminologie, mais selon le schéma le plus habituel parmi les responsables pentecôtistes, ceux qui sont sobres et qui ont une certaine connaissance des données, même parce que vous avez sur les marges des courants extrêmement divers et pour lesquels on ne peut pas résumer de manière claire les doctrines professées. En tout cas, il y en a une sorte de chaos dans toutes les directions. Mais parmi les responsables pentecôtistes, car il y en a beaucoup, disons sérieux et compétents, le schéma est le suivant. Lors de la conversion, lorsque l'on vient à la foi en Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit. Mais il y a un don plus abondant, plus important, qui attend une deuxième expérience. Le pentecôtisme s'est développé à partir d'un schéma de deux expériences clés qui est antérieur au pentecôtisme, qui a ses racines principalement au XVIIIe siècle, mais déjà au XVIIe. Et qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la division catholique entre le baptême et la confirmation. C'est un schéma qui reprend en quelque sorte la division en deux expériences du commencement de la vie chrétienne. Alors dans le pentecôtisme, donc non seulement on dit il y a deux expériences, une première expérience où on acquiert le salut, où on met sa foi en Jésus-Christ, et une deuxième expérience où on accède à un autre statut, si vous voulez, un grade supérieur de vie chrétienne. Dans la grande tradition issue de Wesley, c'est la sanctification. On parle pour ce deuxième stade de sanctification, en considérant qu'au premier stade, il n'en est pratiquement pas question. Dans ce schéma qui remonte donc au XVIIIe siècle, on dit souvent la conversion fait reconnaître Jésus sauveur, mais la deuxième expérience fait reconnaître Jésus Seigneur. Et c'est le début de la sanctification. Alors c'est un schéma que je crois nous ne devons pas admettre, hein, qui est inégable. Mais ce n'est pas de lui spécialement que je parle. Je parle du sens que les pentecôtistes, admettant ce schéma, donnent au parler en langue. La deuxième expérience pour eux, c'est le baptême du Saint-Esprit, qu'ils disjoignent du début de la vie chrétienne, qu'ils conçoivent tout spécialement comme un revêtement de puissance, une abondance plus grande d'esprit, et l'attribution, tout spécialement, du don de parler en langue. Le parler en langue est, dans le pentecôtisme classique et strict, disons les choses comme ça, le parler en langue est le signe nécessaire du baptême du Saint-Esprit. Voilà la signification qui lui est attribuée. Tout de suite, j'ajoute que les pentecôtistes ont parfois un peu de difficulté à maintenir cette position, qu'il y a parmi les pentecôtistes, sérieux et compétents, un certain nombre de gens, j'en connais, j'en ai rencontré, qui disent « Oui, dans le Nouveau Testament, c'est pas tout à fait comme ça. Dans le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit, c'est au début de la vie chrétienne. Mais c'est parce que dans l'Église, on a finalement oublié tout ce que le don du Saint-Esprit implique que finalement, pour nous, il faut une deuxième expérience. Et c'est le cas général. Ils sont parfois un peu embarrassés d'avoir de très grands héros de la foi, des hommes remplis de l'esprit, manifestement, qui ont été de très grandes références dans l'histoire de la piété évangélique, qui apparemment n'ont pas parlé en langue. Alors, certains pentecôtistes se sont dit, mais s'ils ont parlé en langue, mais ils n'ont pas su, c'était dans leur sommeil. Vous voyez, il y a parfois quelques difficultés. Et il y a des gens qui restent pentecôtistes, entre guillemets, qui ont encore l'étiquette, qui sont prêts à admettre que le langage n'est pas tout à fait biblique, quand on dit que c'est le baptême du Saint-Esprit, il a une deuxième expérience, que c'est variable, etc. Mais ils ne veulent pas trop l'exposer, vous voyez, parce qu'ils disent que les gens perdront de leur ferveur, de leur confiance dans le Seigneur, si on le dit trop clairement. Je vous assure que cela existe. La position pentecôtiste, donc classique et stricte, maintient le schéma des deux expériences et le rôle baptême du Saint-Esprit, marqué par le parler en langue, mais ce n'est pas le cas de tous les pentecôtistes aujourd'hui. Et certains d'entre eux, par exemple, gardent le schéma de la deuxième expérience, mais disent d'autres dons peuvent en servir de signe. Le parler en langue, c'est le signe habituel, mais pas toujours nécessairement. Et vous avez donc ces variantes qui existent de fait. Mais la position pentecôtiste classique, donc, c'est celle que j'ai résumée en commençant de parler sur ce point. Est-ce que nous pouvons accepter cette thèse-là, cette interprétation-là du sens du parler en langue? Je crois que nous pouvons dire que la thèse n'est pas très bien fondée bibliquement. Elle n'est fondée ni dans sa première partie, ni dans sa seconde, ni dans l'idée qu'il y a une deuxième expérience qui, en quelque sorte, correspond à la conversion, qui est une sorte de deuxième conversion, mais qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la première moitié de la thèse, et la deuxième, que le parler en langue en est le signe. Si vous cherchez dans le Nouveau Testament l'expression baptisé du Saint-Esprit, le nom même de baptême n'est pas employé pour le Saint-Esprit. Mais l'expression avec le verbe baptisé du Saint-Esprit, vous verrez que rien n'en fait une deuxième expérience. L'expression ne revient pas très souvent. Jésus promet que, alors que Jean baptise d'eau, lui baptisera tous ses disciples d'esprit. C'est ce que Pierre déclare arrivé à la Pentecôte. C'est ce qu'il dit arrivé aussi pour Corneille, le centurion romain qui a mis sa foi en Jésus-Christ, alors que Pierre prêchait et lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, au verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. » Je crois que c'est la traduction la plus normale de ce verset. Donc c'est la constitution même du corps du Christ qui est rattachée au baptême du Saint-Esprit que tous dans l'Église ont reçu. Il n'y a aucune raison biblique d'attribuer le nom de baptême du Saint-Esprit à une autre expérience que l'expérience initiale du don de l'Esprit qui lie tous les croyants qui ont reçu le même Esprit ensemble pour qu'ils constituent le corps du Christ. L'expression baptême du Saint-Esprit, je crois, est assez nette dans son interprétation biblique et comme confirmation, si vous voulez, de ce que je vous dis, il n'y a jamais, dans aucune des épîtres du Nouveau Testament, une exhortation à chercher le baptême du Saint-Esprit. Il y a la mention au chapitre 3 de l'épître aux Galates qu'il y a un renouvellement de l'esprit qui est par la foi, qu'il est fourni de manière renouvelée aux croyants. C'est vrai que le don du Saint-Esprit n'est pas reçu simplement une fois, puis après ça c'est fini. Il y a un renouvellement que Jésus a d'ailleurs comparé à l'alimentation de ses enfants par un père. Si les chants que vous êtes, quand votre enfant vous demande du pain, n'allez pas lui donner une pierre, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? A dit Jésus, on ne revient pas le mot baptême, hein, le mot baptisé, mais donner le Saint-Esprit, cette image que Jésus lui-même fait émerger devant nos yeux, suggère qu'il y a un renouvellement du Saint-Esprit comme il y a un renouvellement du pain quotidien dans le soin que le Père prend de ses enfants. Le Saint-Esprit est donné à la conversion, il habite le croyant et c'est un renouvellement permanent dans la foi. Et il y a une plus ou moins grande maîtrise de cet esprit sur la vie de la personne selon qu'elle le laisse agir. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas libre de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans la vérité. Mais il marche dans la lumière. Et jour après jour, ses péchés sont effacés. Par le sang de Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, il est porté par la dynamique du Saint-Esprit, il porte le fruit de l'Esprit. S'il contriste l'Esprit, ne contriste pas l'Esprit Saint. L'Esprit ne le quitte pas, je crois, bibliquement. Mais l'Esprit n'a qu'une petite part dans sa vie, et ce n'est pas une vie chrétienne heureuse. Ce n'est pas une vie chrétienne épanouie, qui ne porte pas beaucoup de fruits. Le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume, qui est cet esprit qui réside encore dans la personne, mais il n'y a pas plénitude de cet esprit. Ça, c'est ce que la Bible nous permet de dire clairement sur ce qui suit le don du Saint-Esprit initial à la conversion. Mais il n'y a pas une deuxième expérience déterminée qui aurait, en quelque sorte, un poids de type semblable au poids de la conversion, de la venue à la foi qui nous unit à Jésus-Christ. Donc, la première partie de la thèse, je crois qu'elle n'est pas recevable, il n'y a pas ce schéma des deux bénédictions très typées, très séparées. Il y a l'union à Jésus-Christ et de multiples bénédictions que nous nous approprions de manière plus ou moins libre et glorieuse au fil du temps. L'Esprit demeurant en nous. Deuxième partie, est-ce que le parler en langue est le signe nécessaire du don du Saint-Esprit ? Le don baptême, puisque nous ne séparons plus entre les deux. Là, aucun passage ne le dit non plus. Aucun passage ne fait du don du parler en langue un tel signe. Il nous est rapporté dans le livre des Actes, trois fois en tout, de manière explicite, que quand l'Esprit a été donné, répandu, donc qu'il y a eu baptême en même temps, il y a eu aussi parler en langue. Mais c'est pas seulement ces trois fois que des gens sont venus à la foi et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais, trois fois, ça ne suffit pas pour en faire une règle. Le jour de la rencontre, il marquait l'inauguration des temps nouveaux. Chez Corneille, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Actes 10 et 11, et l'apôtre Pierre, quand il en rend compte à ses frères de Jérusalem, au chapitre 11, dit que l'Esprit Saint a été répandu comme sur nous au commencement. Il se réfère donc à la Pentecôte, pour dire que c'est un événement qui a en quelque sorte son parallèle. Et puis la troisième fois, la seule autre fois dans le livre des Actes, c'est en Actes 19, où il y a une douzaine de disciples de Jean-Baptiste qui commencent à converser avec des chrétiens, à se mêler à des réunions, et l'apôtre Paul trouve que c'est un peu bizarre, et il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors ils disent: nous n'avons pas entendu parler de l'effusion du Saint-Esprit, nous sommes des disciples de Jean-Baptiste. Et l'apôtre Paul leur dit: mais Jean-Baptiste était là pour annoncer Jésus qui devait venir, et ils croient en Jésus, ils sont baptisés, donc, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Il n'est pas dit baptisé du Saint-Esprit d'ailleurs, mais ils reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent langue. Ce sont les trois seuls cas qui soient présentés. Donc ça ne suffit pas pour dire le parler en langue est même le signe habituel de la réception du Saint-Esprit. Surtout qu'au moins deux de ces épisodes, et probablement le troisième aussi, représentent des événements clés de l'histoire du salut. L'ouverture de la Nouvelle Alliance au chapitre 2, mais ce ne sont encore que des juifs et des prosélytes, mais tous ont adhéré au judaïsme. Et au chapitre 10, voilà un centurion romain, une ouverture aux païens. Et en ce qui concerne l'acte 19, on peut très bien dire, c'est justement pour bien marquer la différence entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus, que ce nom spectaculaire a été donné à ce moment-là. Donc, il y a des raisons pour expliquer que ce don a été mentionné à ce moment-là, et non pas chaque fois que des personnes sont venues à la foi. À cela, j'ajoute que à Corinthe, l'apôtre Paul souligne très très fortement, lorsqu'il traite des dons spirituels, et qu'il va traiter donc plus spécialement du parler aux langues, que tous n'ont pas reçu le parler aux langues. Il pose la question rhétorique avec la réponse non impliquée. Tous parlent-ils aux langues ? Non. À la fin du chapitre 12. Or, il dit, nous avons tous été baptisés dans cet esprit. Et tous ne parlent pas en langue, il le dit clairement, et tous pourtant ont reçu, tous les chrétiens, ont été baptisés du Saint-Esprit d'après son exposé. Donc je crois que nous sommes obligés de dire que cette thèse du pentecôtisme classique, nous ne pouvons pas y souscrire. Il n'y a pas de raison biblique suffisante pour l'affirmer. Deuxième hypothèse, que je veux aussi critiquer, deuxième hypothèse, quant au sens du don de parler en langue, c'est un don, suggère beaucoup d'auteurs, mais généralement d'orientation pentecôtiste. C'est un don, parce qu'il est le signe du début, mais il continue à le pratiquer ensuite. Alors, dans la pratique ultérieure, c'est un don, disent-ils, qui permet d'adorer le Seigneur, de goûter sa communion plus intensément, plus profondément. C'est un don qui permet donc une union spirituelle au Seigneur d'une qualité supérieure. C'est la signification donc qui lui est couramment donnée. Je l'ai lu et aussi d'auteurs qui sont dans la mouvance, on peut dire néo-pentecôtiste, du mouvement charismatique. Vous savez qu'on distingue entre le vieux pentecôtisme début du XXe siècle et puis le mouvement charismatique qui, lui, est des années 60 du XXe siècle. En gros, c'est au moins 50 ans plus tard qu'il a pris naissance avec des traits assez différents. Il y a cette grosse différence déjà, avec des nuances, mais cette grosse différence que le pentecôtisme du début du siècle a créé des dénominations différentes. Les églises pentecôtistes, donc le groupe le plus important, et le groupe des assemblées de Dieu. Alors que le mouvement charismatique a plutôt créé une mouvance dans les dénominations. Vous avez des charismatiques anglicans, presbytériens, réformés, baptistes, etc., etc. Vous avez, pour le mouvement charismatique des années 60, il y a quelques dénominations qui ont pris le nom de charismatique, en particulier en France, mais mondialement, et aussi en France quand même, le mouvement charismatique s'est caractérisé par sa diffusion à l'intérieur des dénominations qui ont subsisté. Et de l'Église catholique romaine. L'Église catholique ayant un mouvement appelé le renouveau charismatique important. Donc, le mouvement charismatique dit néo-pentecôtiste parfois est assez différent du mouvement pentecôtiste classique. Et il a beaucoup plus de souplesse en doctrine. La thèse pentecôtiste cléro que j'ai formulée et critiquée, elle n'est pas admise par, je crois, même une majorité des charismatiques dans la diffusion, mais assez floue, du mouvement dans le monde. Elle est admise par certains, hein, mais je crois que ce n'est même pas une majorité. Et vous voyez, il y a beaucoup plus de souplesse à cet égard. Mais l'idée que le don de parler en langue est le moyen d'accéder à une forme de communion avec Dieu supérieure, elle est très largement répandue dans le mouvement charismatique, au moins pour ce que je reconnais. Je ne parle pas purement de manière livresque à ce propos, j'ai quelques contacts. Donc, je pense pouvoir dire que c'est une opinion qui est assez répandue et qui rejoint une tradition que certains de nos cantiques même semblent refléter, à laquelle ils semblent donner un écho, à savoir que les mots sont impuissants, que tout ce qui se tient au niveau du discours que notre raison peut appréhender, c'est quand même inférieur spirituellement. Que c'est plus spirituel d'être ravi d'une manière qu'on ne peut pas dire. C'est voilà, il y a un cantique que généralement je me tais quand je fais ça, et qui a l'air de suggérer ce genre de choses. Alors c'est une vieille tradition qui est liée aux influences philosophiques sur certains pères de l'Église déjà. L'idée qu'au-dessus de la parole, il y a le silence. Le silence est supérieur. Que l'homme est ineffable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire. Qu'il faut nier tout ce qu'on dit sur Dieu quand on atteint le niveau supérieur. Le mysticisme qui s'est alimenté dans cette tradition qu'on appelle techniquement néoplatonicienne, le mysticisme a souvent glorifié, c'est une expression classique, hein, c'est un titre de livre, la doctrinorance. Il faut dépasser tout savoir, dépasser tout exercice d'intelligence pour accéder à ce niveau supérieur. Et il y a ce courant, et vous voyez comment l'interprétation du parler en langue que j'évoque peut en quelque sorte renouer avec cette tradition. Il est supérieur d'être dans un état de communion avec Dieu où on n'a plus de mots, où on n'a plus de capacité de comprendre. Ah, là, c'est plus haut, c'est plus profond. Voilà l'idée. J'ai été averti par divers éléments contre cette tradition, et tout spécialement par une remarque d'un auteur qui se tient plutôt dans cette tradition. C'était l'abbé Charles Journet, qui est par la suite devenu cardinal, dans un livre qui évoque cette tradition mystique, connaissance et inconnaissance de Dieu, l'inconnaissance étant supérieure. Il fait quand même cette remarque. Jésus, lui, n'a jamais critiqué les mots. Il s'est jamais plaint que les mots sont impuissants à Dieu, etc. Et c'est une chose frappante. Je trouve que c'est très intéressant à observer. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Il n'y a pas un silence, un ineffable au-dessus de la parole. La parole est Dieu. Alors certes, nous n'apprenons pas tout de cette parole. Il y a bien des mystères qui sont plus élevés que nous. Mais cette dévaluation de la parole comme parole, je ne la trouve pas dans la Bible, et elle n'est pas du tout dans ce que Jésus nous propose. Alors, une raison pourquoi cette tradition est tentatrice à la tigre, c'est que c'est fatigant de chercher ces mots. Et oui, nous avons de la peine à dire. Alors c'est notre paresse spontanée peut nous conduire très bien à dire oh, c'est tellement, tellement mieux de n'avoir pas à chercher ces mots, d'être dans l'euphorie au-delà. Non, c'est vrai que c'est un travail que de dire les choses avec exactitude en choisissant les mots, mais ce n'est pas une raison suffisante pour dévaluer la parole comme parole, la parole au sens intelligible. Et ce qui pour moi est la réputation principale de cette interprétation du parler en langue dont je vous parle, c'est la manière dont Paul, dans 1 Corinthiens 14, traite de ce sujet. Il commence par, après avoir comparé à la prophétie, dont une fois prochaine, peut-être en avril, nous pourrions parler ensemble. Il dit au verset 6, « Maintenant, mes frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie, d'enseignement ? Si des objets inanimés qui produisent un son, comme la flûte ou la lyre, ne produisent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la lyre ? Et si la trompette produit un son incertain, qui se préparera au combat ? De même, vous aussi, si par la langue vous ne produisez pas une parole significative, comment saura-t-on ce qui est dit ? Vous parlez en l'air ! » Alors ensuite, il répond, je l'ai déjà évoqué cela la fois dernière, il prévoit la réponse, ah oui, mais ces langues, elles ont un sens. Toutes les langues humaines ont un sens, il faut qu'elles ont un sens, même si je ne comprends pas. Et il répond, oui, mais si tu ne comprends pas, c'est comme si elles n'avaient pas de sens. Comme si c'était du simple blablabla. Et il continue au verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Donc pour Paul, là où il y a un plus, c'est quand il y a l'intelligence. Il ne considère pas que le fait de ne pas comprendre, ça vous donne un plus, c'est plus élevé ou plus profond. Il reconnaît que l'esprit, l'homme intérieur, il est effectivement en prière. Il est dans la communion avec Dieu, il veut parler en langue, puisqu'il est le siège d'une action de l'Esprit de Dieu en lui. Donc il ne dit pas que la personne intérieure ne retire aucune bénédiction. Mais l'intelligence, lorsque c'est parler en langue, est une fonction de cet homme intérieur qui est en quelque sorte mise en circuit. Et Paul trouve que c'est meilleur. Et c'est pour ça qu'il dira « Cherchez des dons les meilleurs », que c'est meilleur d'être en prière avec son être intérieur, mais l'intelligence surprise. Parlons avec l'intelligence. Vous voyez, la logique de Paul est juste à l'inverse de celle de cette interprétation que je critique. Le plus du côté pour Paul, c'est quand il y a l'intelligence en plus. Alors la manière de traduire le mot qui est traduit stérile ici peut être débattue. Littéralement, c'est sans fruit. Mon esprit est en prière, oui, mais mon intelligence est sans fruit. Alors ça peut vouloir dire elle ne porte pas de fruit, elle ne contribue pas, ou ça peut vouloir dire elle ne reçoit pas de fruit. Donc c'est les deux sens possibles, bon, ça revient au même au bout du compte par rapport à ce que je discute à cet endroit. Lié à ce point, donc, que je considère comme conclu, il y a un passage particulièrement énigmatique, en tout cas pour beaucoup de lecteurs, il a semblé énigmatique, un peu plus loin dans le chapitre, et donc il faut que j'essaie de vous l'expliquer. Mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement, pour ce qui est du mal, soyez des enfants, mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est-à-dire dans le prophète Ésaïe, c'est par des gens d'une autre langue, des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Une parole de jugement qui annonce l'invasion assyrienne aux gens d'Israël. Et l'apôtre continue en disant, par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le message de prophète, au contraire, est un signe, non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? En revanche, si tous parlent en prophète et qu'il survient un non-croyant ou simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur peuvent être manifestes, alors tombant, fausse face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Comment l'apôtre Paul peut-il dire que les langues sont un signe pour les non-croyants et non pas pour les croyants ? Alors que, précisément, il dit que ce sont les croyants qui doivent l'exercer et pas en présence de non-croyants. Vous voyez, ça semble contradictoire. Il dit que c'est un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et puis ensuite, il raconte l'histoire. Si vous parlez en langue, que quelqu'un, un non-croyant arrive, ben il va dire vous êtes fou, ça va l'éloigner. Alors que, précisément, il dit que c'est un signe pour les non-croyants. Quelle est la logique de l'apôtre dans ces versets? Il a semblé très bizarre à beaucoup. Alors je crois que j'ai trouvé la clé, si vous voulez, enfin, je m'en sors, hein. Le texte a été étudié, qu'on comprend ce qu'il veut dire quand on supplée en quelque sorte pour faire des croyants ou pour faire des non-croyants. Le signe du parler en langue, s'il y a un non-croyant, il le renvoie dans son incroyance. Il l'éloigne de l'évangile. Il dit, ils sont fous, puis... C'est un signe de jugement contre lui. Il n'a pas d'esprit. Il est repoussé. Le signe de l'Assyrien parlé en Israël était un signe de jugement de l'incroyance des Israélites. En Ésaïe 28, Paul voit le signe des langues. Alors là, c'est une langue étrangère réellement parlée par les soldats, mais le fait que Dieu manifeste sa volonté par une langue étrangère que ne comprennent pas ceux qui entendent, c'est un signe de jugement. Le signe de son jugement. Donc le signe des langues est un signe de jugement qui fixe le non-croyant dans son incroyance. Et c'est pourquoi il ne faut pas l'utiliser face aux non-croyants. C'est un signe pour les non-croyants dans ce sens qu'ils mettent en évidence leur incroyance, qu'ils mettent en évidence leur éloignement de Dieu, et donc, si on a compassion d'eux, il ne faut surtout pas leur prier en ma présence. Vous voyez la logique de Paul. En revanche, la prophétie, elle, conduit à la foi. C'est un signe pour faire des croyants, pour les croyants dans ce sens. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut préférer la prophétie à cet endroit. Donc vous voyez comment s'articule chez Paul le rôle du parler en langue qui est un don spirituel, donc il ne dit pas qu'il faut le rejeter, la question de l'intelligibilité de ce qui est dit. Ce qui est intelligible, la parole qu'on peut comprendre, conduit à la foi. Et c'est cela qu'il faut privilégier, et aussi pour soi-même, quand c'est la parole intelligible, il y a une plénitude de l'être intérieur en communion avec Dieu que l'on n'a pas si l'intelligence est mise en circuit. Vous voyez la logique de l'apôtre dans ce passage. Si nous écartons donc la deuxième interprétation, pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, donne-t-il ce don, ce phénomène surnaturel? La Pentecôte, vous avez dit tout à l'heure, c'est le moment où le parler en langue a été accordé, et de manière très, très large, et d'une façon qui permettait de bien repérer sa nature, puisqu'il y avait des gens qui comprenaient ce qui était dit dans les autres langues. C'est l'ouverture de la Nouvelle Alliance. Beaucoup de gens vous diront, c'est la fondation de l'Église, advenue pleine et entière, c'est l'ouverture de la Nouvelle Alliance. Comment se caractérise la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancien Testament? La différence peut-être la plus spectaculaire, et qui a fait problème pour les Juifs devenus chrétiens du Nouveau Testament, parce que c'était pour eux tellement nouveau, c'est l'ouverture à toutes les nations, à des hommes de toute langue, de tout peuple. L'ancienne alliance, c'est une alliance qui est restreinte à Israël. Mais ce n'était pas le corps de Dieu, donc restait à Israël. Israël était un peuple mis à part pour préparer la venue du Sauveur du monde. Et une fois l'œuvre de Jésus-Christ accomplie, alors, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit Jésus. C'est l'ouverture à toutes les nations, au peuple de toutes langues, comme l'Apocalypse le souligne, que marque l'ouverture de la Nouvelle Alliance. le don des langues me semble être le don qui signale la nouveauté de la nouvelle alliance, qui marque que l'Esprit est répandu maintenant, sans distinction entre juif et grec, entre toutes les nationalités possibles, toutes les langues possibles. Et c'est en même temps une prophétie du rassemblement final, où toute l'œuvre de la nouvelle alliance sera totalement récapitulée, l'œuvre de l'Esprit sera achevée, et c'est une multitude innombrable, symboliquement 144 000, une multitude innombrable de toute langue qui sera rassemblée dans la lumière de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le parler de langue est un signe de la nouveauté de la nouvelle alliance, qui est aussi un signe donc, de l'accomplissement que nous attendons, où toutes les barrières, y compris les barrières linguistiques entre les humains, seront levées, où nous nous comprendrons parfaitement tous les uns les autres, et où tous ensemble, dans toutes les langues, nous célébrerons l'image de Dieu. Donc c'est ça le sens fondamental du parler en langue. Avec deux adjonctions, deux pensées que je rajoute à cet endroit. Première pensée, c'est ce qui nous explique que le parler en langue, avec l'interprétation qui va avec, que le parler en langue est le seul don que Jésus n'ait pas exercé. Vous prenez tous les dons spirituels. Notre Seigneur Jésus, qui n'avait pas l'esprit avec mesure, comme dit l'évangile de Jean, a eu tous ses dons. Il était prophète, docteur, il a fait des miracles, prenez tous les dons. Il les a tous exercés de manière éclatante, manifeste, suprême. Sauf le paternel. Eh oui, parce que ce n'était pas encore le temps. Il avait été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et la nouvelle alliance, il la préparait, mais elle n'était pas encore ouverte. C'est le fruit de son œuvre. Et la signification du parler en langue que je vous propose de reconnaître, donc, nous explique pourquoi c'est le seul don que Jésus n'est pas exercé. Deuxième pensée que j'ai trouvée dans le livre de M. Vess, qui a enseigné l'anglais à la faculté de lettres sciences humaines de Nanterre, d'ailleurs. Dans sa jeunesse, il a suivi les études publiques au tabernacle. Ensuite, il s'est un peu isolé, il a eu un autre parcours, mais V-A-I-2-S. Il a écrit un livre qui concerne les dons spirituels. Et M. Vess suggère que il y a un signe de jugement des non-croyants. C'est un jugement de l'incroyance des chefs juifs. Il y a le rejet par Israël, représenté par ses chefs, du Messie, un endurcissement partiel est advenu à Israël, dit Romains 11, pour le temps. De l'histoire, pendant que la plénitude des païens entre dans la bénédiction de la Nouvelle Alliance, le fait que maintenant la louange de Dieu s'exprime dans la grande diversité des langues du monde, dans les nations, c'est d'une certaine manière un jugement de l'incroyance de ceux des Juifs qui n'ont pas voulu reconnaître Jésus. Alors, je ne vois pas de passage qui le dise en clair dans le Nouveau Testament. Donc c'est une pensée que je tiens de M. Vess, qui me semble envisageable au moins, qui est intéressante parce qu'elle fait le lien avec l'élément de jugement qui est dans Ésaïe 28 et que l'apôtre reprend en quelque sorte en 2 Corinthiens 14. Voilà en ce qui concerne ce que je vous propose sur le pourquoi. Alors, maintenant, le comment, très brièvement, parce que je voudrais que vous puissiez parler. Il me semble que quand on lit 1 Corinthiens 14, on pourrait le relire à tête reposée, il est clair que Paul ne veut pas déprécier le parler en langue, considère que c'est un don spirituel qui apporte une bénédiction, lui-même dit qu'il le pratique, mais qu'en même temps, il ne pousse pas à le chercher. Et que tout son effort, dans le chapitre 14 de la première aux Corinthiens, c'est de dire, cherchez plutôt les dons les meilleurs, cherchez la prophétie, qui est sans doute le don qui est le plus propre à édifier l'Église. Il me semble que c'est clairement ce que l'apôtre plaide tout au long du chapitre et qui est résumé à la fin, je vous lis la fin. Ainsi donc, mes frères, aspirez à parler aux prophètes sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Voilà, on a l'équilibre en quelque sorte de la position de l'apôtre Paul dans ce chapitre. Alors là, l'aspect restrictif, et en particulier un peu plus haut, il dit qu'il ne faut pas parler en langue s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise à ce moment-là, qu'on parle dans sa foi, dans son cœur à Dieu. Il le dit en rapport avec l'assemblée, pour le culte en assemblée, ce que nous appelons le culte. Il n'emploie pas lui-même ce mot pour la réunion de l'Église. Donc on n'a pas le droit d'en tirer la conséquence qu'un usage privé du parler en langue serait lui aussi déprécié. Il déprécie le parler en langue par rapport à la prophétie en assemblée, ça me semble-t-il très clair dans l'ensemble du chapitre, mais on ne peut pas en tirer la conséquence que pour l'édification privée de l'individu avec Dieu, la même dépréciation joue aussi. Il est à noter qu'il considère comme important dans l'évaluation qu'il fait la réaction des visiteurs. Dans les versets que nous avons lus, donc, il parle dans la traduction NBS d'un non-croyant ou d'un simple auditeur, on pourrait traduire aussi un non-initié, quelqu'un qui n'a pas le don, qui ne sait pas très bien à quoi on aboutit. Il considère comme important de tenir compte de cette réaction par rapport à l'assemblée de l'Église dans ce passage. Alors, il me semble qu'on pourrait conclure de cela que, en petit comité, entre personnes qui sont d'accord, il est permis, ils l'ont permis d'exercer le parler en langue, bien sûr, si on l'a reçu, sans même qu'il y ait d'interprétation. Lorsqu'il s'agit d'un tout petit comité et non pas d'une assemblée de l'Église, là où il ne risque pas d'y avoir quelqu'un d'autre qui arrive, qui en serait repoussé, je pense qu'il n'y a pas d'objection ni à un usage purement individuel du parler en langue, ni à un usage en petit comité dans de telles conditions. Alors, évidemment, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde évangélique, il y a le très grand problème de l'authenticité du phénomène. Je vous ai dit la fois dernière que j'ai un témoignage au moins très ferme qui montre que le parler en langue miraculeux du Nouveau Testament, ça existe, de nos jours aussi, mais je vous ai dit aussi que on n'en est pas sûr pour tout ce qui se met sous l'étiquette parler en langue, et que même moi j'ai assisté à bien des émissions de parler en langue entre guillemets qui ne semblent pas correspondre au don du Nouveau Testament. Mais donc là il y a ce problème aussi, mais pour la pratique j'en reste au vrai parler en langue, au parler en langue selon le Nouveau Testament. Nulle part il ne nous est recommandé de le chercher, mais en même temps nulle part il n'est interdit de le pratiquer pour soi-même en privé, c'est un moyen de bénédiction, ou je pense en tout petit comité. Ça Paul ne le dit pas, mais je le déduis de la manière dont il définit les conditions. En revanche, en assemblée, il ne le tolère que s'il y a interprétation. Et il faut être sûr donc qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interpréter, qui pourra donner le sens en langage intelligible. Ça, c'est de manière assez générale. Alors, je pose maintenant la question précise. Dans notre Église, devrions-nous faire place au parler en langue dans le culte, à supposer qu'il y ait interprétation. Vous voyez, j'ai tracé les lignes clés de manière générale sur ce qui me semble être l'enseignement de Paul quant à la pratique du parler en langue, et maintenant je pose la question très brûlante qui nous concerne. Alors, la première chose à dire, c'est que ce ne serait pas un scandale en soi. Ce ne serait pas un scandale, et ça ne ferait pas de nous de pauvotistes. Cela n'impliquerait pas que nous adhérions à la doctrine que j'ai citée au début et que j'ai critiquée. Non, pas forcément. Cela pourrait se faire sans que nous soyons pentecôtistes du tout. En même temps, alors là je me risque, j'estime que nous n'y sommes pas obligés. Que nous ne sommes pas obligés par le Nouveau Testament à faire place dans nos cultes à des parlers en langue traduits, hein, traduits. Mais nulle part l'apôtre ne me semble en faire une obligation. Il recommande seulement de chercher les dons les meilleurs, et à coup sûr, il ne présente pas le parler en langue comme des dons les meilleurs, en tout cas en assemblée. Ça, il me semble que cela lève pour nous l'obligation de le rechercher. Parce que certains pourraient se dire, ça existait à Corinthe, donc ça devrait exister chez nous. Il me semble que cette logique ne s'impose pas. Et quand il dit aspirez aux dons les meilleurs, recherchez les dons les meilleurs, n'interdisez pas le parler en langue. Il nous donne là l'équilibre qui nous permet de dire qu'au tabernacle, nous ne sommes pas obligés de chercher le parler en langue. Et en second lieu, il nous invite à tenir grand compte de la réaction des visiteurs, des conditions pratiques d'acceptation. Or, je crois qu'il est assez clair et presque évident que s'il y avait du parler en langue qui se manifestait dans nos cultes, il y aurait des réactions très fortes de troubles, de désordre, que bien des gens seraient repoussés, qu'ils refuseraient ce genre de choses, pour des raisons plus ou moins bonnes, mais l'apôtre Paul ne dit pas que ce serait de bonnes raisons, ceux qui diraient vous êtes fous, mais il dit il faut en tenir compte. Et donc il me semble que la manière dont Paul traite le problème en 1 Corinthiens 14 nous autorise à tirer la conclusion, nous ne sommes pas obligés de rechercher le parler en langue pour nos réunions d'église. Nos cultes, dont la durée est aussi assez limitée. Voilà, sans que je dise que ce serait un scandale ou que cela signifierait un basculement dans le pentecôtisme, non, ça serait autre chose. Alors, vous pouvez très bien être d'un autre avis que moi sur tel point, et je vais vous donner la parole.